ma chère, dans le parti couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30, le meilleur de la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bien le bonjour, bon vivant de l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi pour déguster les meilleurs moments passés à table avec nos invités. Alors, vert, rouge et même violet, le poivron fait partie des légumes fruits de l'été. Il est charnu, il est juteux et puis surtout, il est à sa place dans une ratatouille et il est très accueillant pour recevoir une farce, vous entendrez. On va le passer à la casserole. Alors, vous êtes peut-être en vadrouille sur la route des vacances, vous aimez pratiquer l'art du pique-nique. Eh bien, restez avec nous parce qu'entre des recettes de chef et puis les idées de mes bons vivants, on va vous aider à remplir le panier. Et pour se faire plaisir jusqu'au bout, nous retrouverons Camille Chamou, la comédienne commande toujours ce que les autres n'aiment pas, ça me fait rire. Des pieds de cochon au couteau, elle a un bel appétit, vous entendrez. Allez, pour commencer, direction le marché parisien Crime et Curial, dans le 19e arrondissement. On vous a demandé vos recettes fétiches pour partir en pique-nique.
Bah, je suis cuisinière. Quand nous faisons une pique-nique, je fais très très souvent salade avec du chou blanc, beaucoup de carottes, des oignons. Je peux mettre des mayonnaises, mais mayonnaise je fais tout seul à la maison. Sinon, je peux mettre huile d'olive et un petit peu de citron.
Du bon pain, des bonnes tomates, des sardines, des tartines comme ça, c'est super bon. C'est facile à transporter. J'ai goûté un melon, ouais, excellent.
Alors pour l'instant, c'est courgettes, échalotes, pique-nique classique, on va dire, le taboulé. Qui se fait relativement facilement avec de la tomate, du concombre, du grain bien sûr, du citron, et je mets de la menthe. Là, ici, dans cet arrondissement, j'irai au but de Chaumont. En tout cas, où c'est vert. Je veux du vert.
Ah, le taboulé. Moi, c'est ce que je retiens. C'est vrai que le taboulé, c'est le 4x4 des salades. On peut aussi le customiser. Vous êtes taboulé, Charlotte ?
Alors, j'avoue que je ne suis pas très taboulée.
Même avec du quinoa, avec du boulgour.
Ah oui, si, j'aime bien le customiser un petit peu avec du quinoa. Ouais, c'est pas mal.
On peut s'amuser, Olivier.
Et moi, je fais la technique de notre ami Yves Candebordes, c'est-à-dire que les graines de taboulé, on les fait gonfler avec de l'eau, mais aussi avec du jus d'orange ou du jus de pomme. Et ça donne un côté très, très sympa au taboulé. Et après, comme vous dites, on met ce qu'on veut dedans.
Hein. Beaucoup de persil, ça c'est important pour avoir
la coriandre, ce
côté taboulé libanais ou de la coriandre, c'est délicieux. Vous avez commencé la saison des pique-niques, Olivier ?
J'en ai fait un. Mais ouais, j'ai repéré quelques petits coins en forêt.
Ouais, c'est bien ça, à l'ombre. Pour la sieste,
évidemment.
Je vous reconnais bien là, Charlotte.
J'en ai fait un à la maison, figurez-vous. Ah, parce que j'ai...
Dans la salle de bain.
Oui, j'aurais pu.
J'ai au frais.
Et non, j'ai testé un pique-nique d'un chef qui s'appelle Marc Favier. Et c'était vraiment ce qu'on appelle un pique-nique cuisiné. Il y avait une soupe de melon menthe, un baguette à l'effiloché de cochon, une salade de hareng fumé. Tout ça, c'était vraiment très très bon. C'était
pique-nique chic à la maison.
Pique-nique haut de gamme. Ah oui.
Ben on va en parler justement.
Marc Favier de chez Marcor.
Marcor.
On va faire un joli dossier sur les pique-niques pour vous, amis auditeurs, avec des recettes là aussi de chefs très accessibles. Et puis les nôtres à la table des bons vivants. On a plein d'idées. On a un joli cake méditerranéen. Enfin voilà, on vous dit pas tout. Allez, ne bougez pas. On revient dans un instant. La saison des poivrons est ouverte. On vous en parle juste après ça. C'est l'été, la saison des légumes-fruits. Les tomates, les courgettes, les poivrons, les aubergines. Alors, ils arrivent à point pour nous désaltérer et ils nous apportent des fibres et des vitamines quand ils viennent juste d'être cueillis. Alors, légumes ou fruits, ça dépend de quel côté on se trouve et on se place, Charlotte.
C'est ça, stoppons la polémique. Donc, par exemple, c'est un fruit d'un point de vue botanique. Les aubergines, les tomates, les poivrons, c'est le fruit de la plante qui part en fleur.
Oui, au départ, c'est une fleur et voilà.
Mais par contre, c'est un légume du point de vue cuisine et consommation. Donc, les deux se disent.
Ah bon, on peut dire les deux, voilà. Alors, aujourd'hui, on va récolter le poivron avec Karine Tricard, qui est maraîchère bio à Montpon-Ménestérol, en Dordogne. Avant de parler des différentes variétés, un mot sur les prix du bio, parce que j'entends déjà les commentaires. Le bio, d'accord, mais ça coûte cher. C'est vrai que la réponse est oui, souvent ça coûte plus cher, mais ce n'est pas toujours le cas. Et Karine Tricard travaillait autrefois dans la grande distribution et elle tient depuis sa reconversion à ce que les prix vraiment restent accessibles. Et elle en parle au micro de Julien Matt.
Si vous allez direct chez le producteur, vous ne le payerez pas plus cher. Après, si vous passez par les grandes surfaces, souvent, déjà, il y a les intermédiaires qui font que les produits augmentent. Et souvent, malheureusement, les grandes surfaces ne donnent pas une bonne image de marque du bio parce qu'ils disent c'est bio, donc ça doit être cher, donc ils mettent les prix nettement plus chers.
On vient de passer devant les aubergines, devant les poivrons. Vous-même, vous les vendez à combien ces légumes?
Alors nous, ça va dépendre déjà du moment de la saison. Là, on est en tout début de saison, donc c'est vrai que ça va être un petit peu cher, entre guillemets. On est sur du 3 euros, 3,50 euros. Après, en pleine saison, quand il y a vraiment une bonne production, on peut descendre assez facilement à 2 euros, 2,50 euros le kilo.
Alors, on va faire le comparatif. Tiens, justement, en grande surface, le poivron, en ce moment, on va le trouver, le bio, aux alentours de 4,50 euros le kilo. Donc, elle a raison, la grande distribution gonfle les prix, Olivier.
Hein. Vous savez, le bio est aussi, pour eux, un produit d'appel. Hein. Ils se sont engouffrés, on va dire, dans la filière parce que ça rapporte de l'argent. Et oui, alors ils argumentent sur le fait que ce sont des légumes qui se conservent moins longtemps, donc ils n'ont plus de pertes, etc., etc. La réalité, c'est qu'effectivement, ils se remplissent un peu plus les poches avec le bio parce que les gens veulent du bio.
Donc achetons bio quand on le peut directement chez les producteurs à côté de chez soi. Et là, peut-être que c'est un petit peu plus cher que le conventionnel, mais encore une fois, on s'y retrouve côté portion parce qu'on va avoir des légumes bien tenus quand ils sont cueillis à la juste maturité et qui ne vont pas rendre d'eau dans la casserole. Donc encore une fois, on s'y retrouve. Alors, autre question qui revient régulièrement à propos du poivron, c'est la couleur. Rouge, jaune, vert, il y en a même des violets. Alors, est-ce qu'il s'agit de la variété ou du stade de maturité? Eh bien, Karine nous explique.
Alors, nous sommes dans la serre horticole, c'est une grosse serre en vert où nous avons pas mal de légumes d'été, en fait. Donc, à l'heure qu'elle est, nous avons aubergines, poivrons cornes de taureau et poivrons de couleur.
À côté des aubergines violettes, il y a des poivrons violets, c'est ça?
C'est bien ça, des poivrons violetta qu'on appelle, c'est une variété.
C'est par mimétisme, c'est parce qu'elles poussent à côté qu'elles prennent cette couleur ou pas du tout?
Alors, ce sont des variétés différentes déjà à la base, sachant que, mis à part le poivron blanc qui démarre blanc, tous les autres démarrent vert. Donc, un poivron vert, c'est un poivron qui n'est en quelque sorte pas mûr. Après, il vire de la couleur de la variété et il finit rouge dans tous les cas.
Donc là, avec un poivron violet, on est au deuxième stade. Il a passé le cap vert.
C'est tout à fait ça. Plus le poivron est à maturité, plus il est sucré. Alors le poivron violet n'a pas forcément un goût spécialement différent du poivron vert. Après, le poivron orange et jaune seront nettement plus sucrés. Le poivron rouge, c'est le poivron à maturité qui sera nettement plus digeste.
Ah bah voilà, on a bien retenu la leçon là. Ça commence souvent vert, à part pour le blanc. Et puis ensuite, eh bien, ils vont mûrir jusqu'au rouge. C'est vrai que le poivron violet est amusant. Il va rester vert à l'intérieur. On peut les farcir, les poivrons, on peut en faire plein de choses. Alors attention, tout le monde n'est pas égal devant la digestibilité du poivron. Hein.
C'est la peau, c'est ça?
C'est ça, il faut retirer la peau.
Il faut de toute façon retirer la peau, c'est vrai. Mais au plus il est mûr, au plus il est digeste aussi.
En plus,
je vous avoue que moi, je les préfère rouges, je les digère mieux. Et puis j'aime bien ce petit goût un peu plus sucré qui peut même d'ailleurs donner lieu à des interprétations en sucré, en dessert.
Hein. Oui, c'est vrai.
Des desserts à base de poivrons.
Il y a des glaces de poivrons.
Qui sont assez intéressantes. Et alors pour enlever la peau, on rappelle le truc. Hein. Moi, je les mets dans le four, sous le grill. Tout simplement, la peau se met à cloquer. Après 3-4 minutes, on la retire, tout simplement.
Ouais, et on peut même mettre le poivron dans un sachet plastique pour qu'avec l'humidité, il se ramollisse bien et la peau viendra tout seul comme ça.
Toute seule.
C'est mieux que l'économe parce qu'à l'économe, on en met partout quand on l'épluche.
Et c'est rapidement
assez indélébile. Un peu épais.
Un petit peu épais. Poivron farci, ça c'est délicieux ça. Au four avec une belle farce à base d'échine de porc, bien relevée avec des épices, c'est vraiment.
Ça, c'est comme ça que je les préfère.
Un plat de saison. Et puis la chouchouka aussi, hein, ce fameux plat du Maghreb avec des tomates et on casse des œufs au milieu. C'est délicieux ça.
Gaspacho aussi. Sinon, on peut faire,
un gazpacho
avec
et poivron confit. Moi, j'adore tout simplement les confire dans de l'huile d'olive avec un petit peu d'ail, un petit peu de thym. On les laisse dans le four comme ça à 80 degrés pendant une ou deux heures. Ils vont confire tranquillement. On les sert froid sur un petit morceau de pain. C'est délicieux.
Et puis là, on rentre dans la saison des barbecues et des planchas. Donc, des poivrons coupés en petites lamelles comme ça, l'huile d'olive sur la plancha ou même entier qu'on va retourner comme on ferait avec une aubergine sur le grill du barbecue. Il va y avoir ce petit côté grillé, même fumé, qui va relever le poivron. Et il se marie bien aussi avec les poissons, le poivron, hein, les sardines, les maquereaux qui débarquent. Donc pensez-y. Allez, ne bougez pas. On va l'emmener en pique-nique, tiens, le poivron aussi. Il a peut-être des trucs à raconter. On revient dans un instant avec des idées de pique-nique. Mais attention, de chef. Juste après ça. À tout de suite. Alors, c'est l'été. Après des semaines confinées, nous avons envie de nature, de plein air et de pique-nique. Alors, vous êtes nombreux hein, sur la page Facebook du groupe Les Bons Vivants, par exemple, à nous demander des idées de recettes. Alors, on déplie la nappe à carreaux. Tiens, Charlotte, qu'est-ce que c'est pour vous la recette incontournable d'un pique-nique réussi? Tiens, déjà.
Moi, j'aime bien emporter du pâté en croûte.
Ah, gourmande.
Je ne les cuisine pas, je vous l'avoue, hein, mais je trouve ça très pratique et très, très bon.
Mais oui, mais ça, c'est super. Une belle charcuterie, c'est vrai qu'elle a sa place en pique-nique.
Évidemment.
Olivier.
Ben moi, il y a un plat que je mangeais en pique-nique avec mes parents, que j'ai ensuite fait découvrir à mes enfants et que j'emmène toujours. Ce sont des tartines aux œufs. Et j'adore ça.
C'est
des eggs sandwich comme en Angleterre.
On fait une omelette, une simple omelette, on la laisse refroidir. On prend du pain de mie et on farcit le pain de mie avec cette omelette froide.
Ah, c'est sympa ça.
C'est délicieux.
Ah, j'aime bien parce que c'est quelque chose de très moelleux en
c'est
plus.
C'est très moelleux et puis l'œuf, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez. Mais même avec une omelette nature, ça marche. Ou un peu de fromage, ce que vous voulez.
Votre incontournable du pique-nique, Marion.
Alors, j'aurais tendance à vous dire que c'est la tomate bien mûre avec juste un petit peu de sel à l'intérieur. Vous savez, ça dégouline sur les joues, mais c'est tellement bon.
C'est ça, c'est vrai que ça rappelle les colonies de vacances. Moi, quand je partais en colo et qu'on faisait un pique-nique, on avait la tomate. Et c'est vrai que c'est une première sensation de manger comme ça ce légume-fruit, c'est très agréable. Bah moi, mon incontournable, c'est le poulet rôti, quoi. Qu'on le fasse soi ou qu'on prenne l'acheter juste avant chez le boucher, bien rôti à la broche, un bon poulet fermier.
Encore un peu tiède.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Encore tiède, oui, pas trop froid. Non, tiède. Non,
froid, ça casse les goûts.
Oui,
on laisse
d'accord.
Un peu tiède.
Ouais, on est d'accord.
Et que dire d'un bon saucisson aussi.
Ah,
mais
bah
oui.
Ah,
oui.
Ouais, il est bien rempli, notre panier de pique-nique.
Il est pas mal.
Un autre incontournable du pique-nique, les copains, c'est la chips. Et on en mange de plus en plus. Est-ce que ça vous donne la frite, Olivier Pouls, vous le belge?
C'est vrai que c'est en été que les ventes de chips explosent. Alors, je vais vous épargner tous les chiffres, mais enfin, on est à plus d'un kilo par an par personne. Quand on sait que les chips, ça pèse pas lourd, ça fait quand même des belles quantités.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est vrai que c'est bon, hein, on va pas se mentir, on aime tous mettre la main dans un sac de chips.
Salé.
Évidemment, le problème, c'est que pour d'un point de vue diététique, là, c'est la catastrophe parce que c'est plus calorique que du foie gras.
C'est un piège.
Donc, plus de 500 calories pour 100 grammes.
Si vous le pouvez, achetez les chips les plus naturels possibles avec le moins d'ingrédients, d'adjuvants. Et puis sinon, faites-les vous-même, les amis. C'est quand même vraiment pas très compliqué. Une friteuse, des pommes de terre, une mandoline, et on fait ses chips.
Et même
elles sont grasses quand même, de toute façon.
Elles sont grasses quand même, mais je pense moins grasses. Et puis on va surtout aussi doser le sel.
Oui, c'est vrai qu'ils rajoutent pas mal aussi d'additifs et d'adjuvants de temps en temps pour les goûts. Il y a une recette amusante, tiens, avec les chips. C'est une recette de Jean-François Piège et une recette du grand chef espagnol Ferran Adrià. C'est une tortilla avec des chips. Ça, c'est quelque chose qu'on peut emmener en pique-nique là aussi. On remplace la pomme de terre de la tortilla par des chips avec des œufs et on mélange tout ça et on fait cuire comme il faut, comme une tortilla, on la retourne et vous l'emmenez là aussi en pique-nique.
Et on garde le côté craquant des chips.
Exactement. Alors comment thématiser le pique-nique? Comment rassembler le plus grand nombre? On revient avec des idées de recettes de chefs accessibles et puis des idées de lieux aussi. Ce sera juste après ça. Le choix des recettes, c'est vrai, important pour le pique-nique, mais le lieu compte aussi pour beaucoup dans la qualité du moment. Où est-ce que vous aimez pique-niquer, Charlotte? Vous nous avez parlé de votre salon.
Dans sa salle de bain.
Ouais, dans sa salon.
Elle a fait couler un bain,
mais
comme
une
ça est au bord
dans
de l'eau.
Mon salon. Non, sinon, j'aime bien à la plage. Moi, j'aime bien sous le parasol. Et sinon, je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles j'aime la randonnée. En fait, c'est un petit peu quand même la pause là, comme ça, en plein milieu, devant un paysage fantastique.
Il y a le Graal, il y a la récompense du pique-nique au bout de la randonnée. Il faut un but pour les randonneurs, bien souvent.
C'est souvent ça.
Olivier, votre endroit préféré?
Mais moi, j'aime la forêt. Et si en plus il y a un petit ruisseau ou un petit lac, je suis content. Et surtout un bel arbre.
Ah oui.
Disiez tout à l'heure, un bel arbre d'abord pour s'adosser, se laisser glisser ensuite tranquillement et sombrer dans une petite sieste réparatrice entre 14h30 et 15h30, voyez-vous.
C'est bien ça, on est bon.
Mais on fait gaffe aux moustiques et aux fourmis.
Oui, exactement. Et on évite les tunnels. Moi, j'ai vu un jour des Belges pique-niquer dans le tunnel de Fourvière à Lyon. Je vous assure que c'est vrai. Je suis désolé de donner la nationalité, Olivier, mais je vous assure que c'est vrai. Il y avait un bouchon et ils ont déplié, je m'en souviendrai toujours, j'étais gamin, à la table de camping sur la bande d'arrêt d'urgence. C'était un arrêt pendant des heures.
Ils ont eu le temps de manger.
Ils ont pique-niqué là, à côté. Vous, Marion, votre endroit préféré?
Moi, j'ai tendance à aimer la plage aussi, mais dans un parc, tout simplement, avec la nappe à carreaux, entre amis, c'est parfait, en fait.
Et on bronze en même temps.
Non, on apporte le parasol, sinon on bronze pas forcément tous.
Pareil. Avec cette crise sanitaire, on le voit depuis plusieurs semaines, les chefs s'adaptent, et beaucoup d'ailleurs ont misé aussi sur le pique-nique. Et le sandwich est même devenu créatif, loin du jambon beurre, Charlotte.
Oui, c'est ça. Par exemple, vous avez Amandine Chéniaud du restaurant Pouliche à Paris. Elle, dans son panier, elle met une citronnade maison, un bun brioché avec de la truite fumée.
C'est le pain du burger, le bun.
C'est ça, oui. Et alors, elle met dedans de la truite fumée, de l'avocat, des pignons de pain, un comté affiné 18 mois, s'il vous plaît, de la fruitière de Langon, un bouquet d'herbes aromatiques à ajouter sur une salade ou en infusion. Enfin, vous voyez, c'est quand même un bon sandwich. C'est ça. On est loin du jambon beurre,
effectivement. C'est le burger revisité, même, là
c'est
aussi.
C'est ça. Et on est autour de 25 euros pour l'été. À partir de lundi, vous pouvez vous l'offrir. Allez goûter ça.
Oui, 25 euros le burger, quand même. mais voilà, il y a de belles choses. Non, il y a la citronnade,
il y a
d'autres choses aussi.
Il y a, la salade, tout ça.
Des infusions et tout. Ah oui, donc ça,
il y a un vrai panier.
C'est
un vrai
panier. Je ne sais pas pourquoi on est fâché avec le jambon beurre, parce que quand le pain est vraiment bon, le jambon aussi et le beurre est exceptionnel, excusez-moi, ça reste quand même un des basiques incontournables.
Moi, je suis entièrement d'accord. Non, non, je ne détrônais pas le jambon beurre, loin de là.
J'espère bien.
Mais en revanche, c'est vrai que le jambon beurre a été détrôné dans le cœur des Français par le burger, mais je suis 100% d'accord avec vous. Une bonne baguette bien croustillante, un bon beurre comme il faut, et puis un bon jambon, alors là, artisanal.
Et des bons cornichons.
Qui se délite, et des bons cornichons, on valide quand même. Le pique-nique peut être exotique aussi, Olivier. On a la preuve, par exemple, avec Alexandre Bourdas à Honfleur.
Lui, il nous propose d'emmener des sushis en pique-nique. Alors, pourquoi pas ? C'est vrai que ça, c'est facile à manger avec les doigts, peut-être une paire de baguettes quand même. Donc lui, c'est les 12 euros pour 10 sushis. Donc c'est quand même vraiment très abordable.
Ah oui, c'est moins cher que les grandes chaînes de sushis. Hein.
Exactement. Et dans les règles de l'art, s'il vous plaît. Donc c'est vrai qu'on peut éventuellement se laisser tenter par ce côté un peu marin du pique-nique.
Oui.
Et puis je pense qu'il emmène aussi des pâtisseries, il propose des pâtisseries qui vont avec le menu et c'est délicieux.
À Honfleur en Normandie, ça se mange vite ça par contre, parce que le sushi on ne l'emmène pas en randonnée.
Et puis on fait très attention à garder quand même un peu la chaîne du froid, parce que le sushi c'est du poisson cru et donc une bonne glacière avec dedans tout ce qu'il faut pour maintenir le froid. Et on ne laisse pas la glacière chauffer dans la voiture pendant 2 jours.
Un petit pique-nique exotique, Marion ?
Oui, moi j'aime bien par exemple la bruschetta, pourquoi pas, à l'italienne, un bon petit pain grillé frotté à l'ail avec des petites tomates. Pardon, je reste sur la tomate, mais c'est la saison.
Ah oui.
C'est délicieux, c'est frais et j'aime bien croquer là-dedans.
Bon, on va rester dans le sud, il y a un petit tour en Camargue pour des idées de pique-nique. Alors du taureau, non, du riz rouge, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez sélectionné, Marion ?
Eh bien, Armand Arnal fait à Arles un pique-nique pendant tout l'été avec du gazpacho de betterave, des courgettes en escabèche, du caviar d'aubergine à la tomate, une terrine de volaille, une omelette verte, de la soupe de courgettes, de la soupe au pistou, de la salade de pommes de terre. Voilà quelques-uns des plats que vous pourrez trouver dans ce panier, ça se passe à la Chassagnette, c'est chez lui, sur son domaine, et vous venez...
Au Sambuc, oui, à côté de Arles. Hein.
Voilà, vous venez chercher votre panier, vous vous posez sur le domaine et vous profitez de la nature.
Et si vous
génial.
Avez la chance d'aller dans le coin et de déjeuner chez Armand Arnal, que vous craignez les moustiques, parce que c'est une région moustique, et bien il y a une moustiquaire géante qui est installée, et on dîne comme ça sur cette moustiquaire, mais qui est immense, effectivement, les tables sont dressées, et le pique-nique, il faudra choisir un coin sans moustiques.
C'est
du
ça,
coup,
exactement. Hein, on peut aller voir son potager qui est extraordinaire, et ce panier c'est 49 euros par personne jusqu'au mois de septembre.
D'accord, donc c'est un prix conséquent quand même, hein, pour un panier pique-nique. Alors là, la question se pose, faut pas se planter sur l'endroit quand on paye le pique-nique de ce prix-là, sinon on va se mettre à table et effectivement, on est sûr d'avoir du service aussi,
c'est ça.
Hein, dans ce cas. Alors ça, ce sont des recettes de chef, mais il y a plein d'idées accessibles aussi qu'on peut tous faire à la maison, par exemple.
Et vous avez pas apporté un petit truc là, par exemple ?
Si, regardez, un cake méditerranéen. Je vous l'ai fait hier soir avec amour,
ça
parce
sent
que
bon,
j'aime
hein
bien l'idée qu'il passe la nuit comme ça, le cake. C'est très simple. Alors j'y suis allé un peu franco sur l'huile d'olive pour qu'elle apporte du moelleux, des œufs, de la farine, des poivrons, effectivement, on en parlait tout à l'heure, du thon émietté, des olives, alors là de belles olives noires aussi qu'on va concasser, et un petit peu de parmesan et d'huile d'olive avec du lait pour donner du moelleux. On vous mettra la recette. Il est assez humide hein, même. Hein.
Mais c'est bien, mieux vaut un peu trop humide que trop sec, parce que le cake trop sec, c'est vraiment triste.
Je suis d'accord. C'est pour être une chanson, ça, de Pierre Perret.
Oui,
qui sera là tout à l'heure.
Oui, alors que là, on a vraiment tous les ingrédients. Ce côté presque un peu juteux en bout, c'est délicieux.
Une recette bon marché, tiens, pour aller en pique-nique, Charlotte.
Moi, j'aime bien faire des rillettes de sardines. C'est très simple, ça se tartine après sur le pain avec un petit peu fromage frais, des échalotes, coriandre, un petit peu de capre si vous aimez ça, jus de citron, piment d'Espelette éventuellement.
Et des petits légumes tout. Qu'on...
Et voilà, et sinon, oui, on trempe des légumes, du pain, enfin après, moi j'aime bien faire.
Une dernière pour la route, Olivier.
Ben vous prenez une verrine, c'est assez pratique à transporter. Plein de légumes, du moment des tomates coupées en petits morceaux, vous prenez une courgette, vous prenez un concombre, une belle mozzarella. Vous mettez tout ça avec des herbes, un trait d'huile d'olive dans votre verrine, vous secouez, ça mélange le tout et il n'y a plus qu'à la déguster.
Et le dessert dans tout ça ? Ne bougez pas, on déguste les fruits de saison dans un instant avec Stéphane Lagorce. Vous savez, c'est l'inventeur de la miamologie. On va se régaler avec plein de jolis fruits. A tout de suite !
Miam, miam.
Après une pause pique-nique et avant le plat du jour, faisons une belle salade de fruits de saison avec Stéphane Lagorce, cuisinier dans une première vie. Il enseigne aujourd'hui les sciences de l'aliment à AgroParisTech. Il écrit des livres passionnants. Il a écrit les traités de miamologie. Et aujourd'hui, voici le grand précis des fruits à éplucher et leur recette sans pépins. Bonjour Stéphane Lagorce.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Il est tout frais. Alors un très très joli livre. J'adore parce qu'avec vous, on cuisine en apprenant et en s'amusant. amusant. C'est ça qui fait tout le sel de vos ouvrages à chaque fois. Pourquoi vous vous êtes intéressé aux fruits cette fois-ci?
Bah parce que les fruits, c'est un peu un défi. Et quand j'étais jeune apprenti en cuisine chez Jean Delaveigne, il y a fort longtemps, il transforme les fruits de manière si intelligente et si géniale que ça m'est toujours resté dans l'esprit. Et ensuite, j'ai toujours eu envie d'explorer ce sujet qui est sans fin.
Oui, c'est
sans fin.
Ah oui, et puis il y a des choses à raconter. Hein. Le goût, ouais. La texture, la cuisson, la structure aussi.
La structure, hein. Oui, c'est ça qui est amusant parce que finalement, tous les fruits sont frais avec les mêmes briques de base, des fibres, des sucres, de l'eau, et pour dire vite, des pectines, tout ça. Et en fait, chacun des fruits a un mix un petit peu différent de ces différents composants. Et donc, chacun des fruits a des propriétés et donc des possibilités culinaires différentes.
Alors, c'est la saison de l'abricot. On vous a apporté un abricot, justement. Comment vous le décririez? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur l'abricot au niveau de la structure, de la texture? Comment le cuisiner?
On voit bien sa face rouge, donc c'est la face qui était exposée au soleil, c'est pour ça qu'il est comme ça. Il est assez gros, à sa texture je pense qu'il est, il est pas loin d'être mûr. Le problème de l'abricot c'est qu'il mûrit en quelques heures, c'est un fruit qui a ce défaut là on va dire. Et donc souvent on le mange un peu trop mûr, trop mou, un peu trop pas mûr, trop dur, et le moment exact il est difficile. C'est pour ça qu'en fait en le cuisinant, c'est beaucoup plus facile de l'avoir tout le temps bon en fait. Et surtout que c'est un fruit qui se prête merveilleusement à la cuisine. Ça se saute à la poêle, ça se fait rôtir au four, ça se met dans un écrasé à la cuillère, ça va enrichir une sauce et lui donner un côté fruité très intéressant. Et c'est un fruit qu'on a trop tendance des fois à manger un petit peu tristement parce qu'il n'est pas souvent, alors pas toujours, il y a très bons abricots.
Mais c'est compliqué de les trouver bien mûrs.
C'est vraiment difficile.
Paris, j'ai fait trois primeurs hier pour le trouver parce qu'ils sont cueillis avant maturité, va se dire la vérité.
C'est tout le problème en fait des fruits, c'est qu'en fait le critère d'acceptation des fruits pour le consommateur, c'est l'aspect, quoi. Et vraiment, là, il y a une pédagogie à faire du fruit moche, qui peut être juste délicieux.
Et qui est souvent meilleur.
Et qui est très souvent meilleur. Vous avez raison, qui est souvent meilleur, mais beaucoup des fruits sont triés par des machines optiques, et c'est comme ça qu'on leur donne leur valeur, et là-dessus, il y a vraiment un boulot à faire, quoi.
Alors, vous qui êtes attentif à la texture et puis au côté scientifique de la cuisine, c'est vrai que l'abricot, comme beaucoup de fruits, rend de l'acidité à la cuisson, par exemple. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, mais là aussi, tout va dépendre de la maturité du fruit, parce que plus le fruit est mûr, bien entendu, plus il est sucré, moins il est acide. Donc, on va aussi choisir la maturité du fruit en fonction de ce qu'on fait. Alors l'abricot, même mûr, il y a toujours une certaine part d'acidité. C'est pour ça qu'il est très intéressant, par exemple, de mettre dans une vinaigrette une cuillère à café d'abricot écrasé.
Essayez. Comme la framboise.
Comme la framboise, c'est tout à fait intéressant. Ou quand il est assez ferme, d'en faire des petits cubes, ça donne une texture et un aspect fruité. En fait, on a trop tendance en fait à ne pas oser mettre des fruits dans la cuisine. Il ne faut pas les mettre à toutes les sauces non plus,
mais bien équilibré,
bien
dosé.
Équilibré, c'est vraiment intéressant.
Tout à l'heure, je parlais d'un ceviche de maigre, par exemple, avec des framboises qui viennent titiller le poisson.
Typique, exactement. On peut faire la vinaigrette avec du jus de grenade.
Vous parlez du melon aussi. C'est la saison du melon.
Ah oui.
Alors attention, le melon, parce qu'on peut pas en faire n'importe quoi, selon vous.
Non, parce qu'en fait, le melon, il est très riche en eau. Il a le défaut d'avoir des arômes qui sont très forts, mais qui sont, pour un tas de raisons, très sensibles à la chaleur. Donc, on oublie la cuisson, évidemment. Par contre, la chair du melon mixée fin, a une consistance et une longueur en bouche qui est tout à fait stupéfiante. On peut faire des veloutés, on peut faire des potages.
Gaspacho de melon.
Gaspacho de melon absolument époustouflant, j'allais dire. Et c'est pas très compliqué à faire. On prend un melon bien mûr, évidemment. On le mixe, on citronne un tout petit peu. Parce que les fruits, dès qu'on les coupe, dès qu'on les mixe, ils ont tendance un petit peu à se dénaturer. Donc, avec l'acidification du citron, on stoppe un petit peu le phénomène. Et après, on n'a pas besoin de sucrer.
Moi, j'y mets un peu de pastis dans le gazpacho.
Ouais, voilà, faut pas le dire.
Ce qui est très difficile avec
la
le melon.
La vodka, ça marche très bien aussi.
C'est le choisir. Le choix du melon reste un casse-tête qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. Ah, parce qu'extérieurement parlant, tant qu'on n'a pas goûté.
Le pédoncule craquelé.
Oui, mais c'est pas suffisant.
Non, c'est vrai.
Laurent a une
et
bonne,
le poids.
Le sentir.
Et la troisième imparable, c'est la chance.
C'est ça.
Et ben voilà. Et on a eu de la chance de vous recevoir. Merci
avec plaisir.
Stéphane Lagorce, le grand précis des fruits à éplucher et leurs recettes sans pépins. Mieux connaître et mieux aimer les fruits qui nous entourent, c'est chez Homo Habilis. Merci Stéphane Lagorce.
Merci à tous.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Un poète peut en cacher un autre, attention. Hein. Retrouvons l'ami Petit Renaud. Ce samedi, Jean-Luc milite pour la réhabilitation de la tartine, en pique-nique bien sûr, et même pour le repas du dimanche soir. Bien le bonjour, copain de la tartine.
Ami de l'été, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous allonger sur une belle tranche de pain toasté pour goûter aux joies de la tartine du dimanche soir. C'est pile le moment où l'on n'a pas envie de cuisiner, de repasser à table après le bon déjeuner dominical. Alors en guise de crème bronzante, mes amis, je vais enduire votre corps d'une préparation de petits restes, vous savez, ces petits riens qu'on va chercher sur la carcasse du poulet rôti, les petits restes de pot-au-feu, de crustacés. Alors on va interpréter une sauce des cornichons et capres pour les uns. On va faire une mayonnaise bien relevée aux herbes parfumées pour d'autres, que l'on va déposer sur le toast. Il faut avoir le geste large. Mais attention aux échappées belles sur le jabot, car en un claquement de doigts, la mayo prend ses jambes à son cou et se couche sur le gilet. Alors pour éviter cette catastrophe, moi je possède une technique imparable. Je dépose sur la préparation un deuxième toast de la taille de la première tartine. Et astuce, pour que rien ne bouge, je retiens le tout avec deux élastiques. Mais attention, mes camarades, de ne pas avaler les élastiques,
bah oui.
Car vous risquez de faire des bonds jusqu'au lundi matin. Elle est pas belle, ma tartine du dimanche soir?
Ah, elle est belle, et puis elle est rebondissante, c'est ça qu'on aime. Merci, l'ami Jean-Luc, qui avait sorti d'ailleurs un ouvrage sur le sujet, 52 tartines pour le dimanche soir. Jean-Luc, c'est vrai que la tartine du week-end ou en pique-nique, c'est un incontournable, ça.
Mais
aussi.
Évidemment, hein. Que le toast soit grillé ou pas, d'ailleurs, une bonne tartine, c'est quand même la base.
Mais c'est vrai, comme l'ami Jean-Luc, pensez aux élastiques. On retrouvera Jean-Luc Petit-Renaud la semaine prochaine, évidemment. Le temps de redresser la table pour accueillir Camille Chamou, notre invitée. A tout de suite les amis. Midi approche, hein, vous le savez, et bien c'est l'heure d'ajouter un couvert pour accueillir notre invitée. Parisienne née sous Giscard, elle tombe amoureuse du théâtre à l'âge de 7 ans. Auteure et interprète, elle croque la vie dans ses seules en scène comme au cinéma. Elle vient d'enchaîner 6 films. Hein. Elle n'est pas prête de s'arrêter, je peux vous dire. Camille Chamou est notre invitée. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir et vous allez remonter sur scène à partir de septembre.
Exactement, pour mon nouveau seul en scène.
Au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Exactement.
Voilà une bonne nouvelle. Vous avez une idée du titre déjà ?
Bah, probablement ça va s'appeler Éloge du minuteur. Vous voyez, on rejoint la cuisine.
Ah, pour les œufs à la coque, très important.
Voilà, très important.
Et pour les pizzas aussi. Hein.
Et les pizzas aussi, on va faire une pizza avec Yves Courdebord dans un instant. Vous aimez cuisiner, hein, Camille Chamou ?
Oui, j'aime surtout manger parce que j'aime cuisiner, mais je cuisine mal. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer. Parce qu'on a des marges de progrès dans tout dans la vie, vous ne pensez pas ?
Mais je suis tout à fait d'accord.
Absolument. Et puis le confinement a renforcé vos talents de cuisinière. Hein,
exactement. Bah, je pense que je ne suis pas la seule pour le coup, mais comme 60% des Français, je crois, je me suis enfin mise en cuisine. Et non, c'est agréable en fait de sentir qu'on a une vraie marge de progression dans tout. Parce que moi, j'étais la plus nulle du monde.
C'est valorisant de cuisiner.
Et maintenant, oui, je me sens vraiment capable de faire plein de trucs. Et hyper vite, et un peu avec ce qu'il y a dans le frigo.
Quel est votre goût de la semaine, Camille Chamou ?
Mon goût de la semaine...
Un restaurant dans lequel vous êtes retournée, peut-être ?
Oui ! Je suis allée en terrasse à Clamato, à Paris, dans le 11e.
Un restaurant de poissons !
Et oui, et c'est délicieux, c'était super bon. Enfin, c'est très simple, hein. Le truc que j'ai adoré, c'est leur fish and chips. Alors vous allez me dire, c'est hyper simple, mais en fait, un fish and chips super bien fait... C'est génial.
C'est une très belle adresse.
C'est
très,
super très belle bon, Clamato. C'est des trucs tout simples, les moules, les fusées de chips.
Mais
super
peu,
bon.
Oui.
Mais le plus dur, c'est faire simple.
Ouais.
C'est le plus dur.
C'est ce qu'on dit
simple,
régulièrement.
Très bon.
Vous aimez passer du temps en Normandie, Camille Chamou, hein, mais vous êtes passé de la cuisine au beurre et à la crème à un régime libano-grec.
Oui, parce que j'ai rencontré mon homme qui est un libano-grec. Et c'est vrai qu'il m'a fait passer de la... Moi, la cuisine familiale chez moi, c'est beurre et crème. Vraiment, beaucoup. Beaucoup de beurre, beaucoup de crème. Mais en fait, j'ai découvert...
Bon.
C'est délicieux.
Vous avez,
c'est délicieux.
C'est le représentant du beurre et de la crème
j'adore.
Officiellement.
Enchanté. Non, moi, j'ai découvert l'huile d'olive, le régime grec ou le régime crétois, comme on disait dans les années 90, puisque les gens ne juraient que par le régime
c'est
crétois.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais oui, moi j'adore maintenant. Bah, mon petit plat préféré, je dois dire, est un plat grec. C'est très simple d'ailleurs, mais c'est la salade d'Akos, qui est une salade avec des croûtons de pain complet et des petites tomates cerises et un fromage qui s'appelle la misitra qui n'existe pas en fait ici, qu'on ne peut pas trouver.
Lait de brebis comme la feta?
Oui, ouais. Mais c'est vraiment particulier parce que ça a une texture un peu plus proche de la mozzarella ou de... Enfin non, pas de la mozzarella, de la burrata presque.
D'accord, crémeux. Ouais.
Mais ouais, un peu crémeux avec en même temps des petits bouts un peu solides et ça a un goût très particulier, très 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 bon.
Eh ben,
et c'est avec ce fromage qui est fait la d'Akos.
On va rester dans une ambiance méditerranéenne parce que Yves Candebord nous met aux pizzas aujourd'hui. Mmh. C'est un défi que vous aviez lancé pendant le confinement, cher Olivier Pouls.
Il m'a provoqué.
Hein, parce que vous nous avez parlé de cet appareil qui ressemble, on va dire, à un appareil à raclette ou à une sorte de...
Un ovni, je dirais.
Un ovni, oui, un petit peu. C'est en plastique, ça coûte pas cher cet appareil à Pilsen. Hein.
Alors, cet appareil, ça coûte pas cher parce qu'il coûte moins de 40 euros, il coûte 39 euros. Voilà.
Et on peut faire des pizzas chez soi, quoi.
Et on peut faire des pizzas chez soi, j'ai trouvé ça chez Boulanger, et honnêtement, c'est très pratique.
Racontez-nous alors, parce que là, on a une belle pizza en studio.
Ouais, vous pouvez voir, c'est vraiment un ovni, il a pratiquement le rouge Ferrari, parce qu'en plus, je le trouve quand même assez joli de l'extérieur. Il a de l'allure, et en fait de compte, voilà, c'est une plaque qui chauffe très fort sur le dessous, aussi bien que sur le dessus. Alors, le petit conseil que je donne quand même, c'est n'essayez pas de faire votre pâte à pizza. Allez chez votre boulanger, demandez-lui de la pâte à pain.
Bien sûr, c'est voilà. La cousine de la pâte à pizza.
C'est exact. Moi, je l'ai fait avec la pâte à pain et c'est quand même, je dirais, déjà
elle est
pratique
belle.
À faire.
On a une pâte qui est très bien colorée, alors, qui est boursouflée sur les côtés.
C'est l'avantage d'avoir pris de la pâte à pain, c'est qu'on a une pâte sur le fond qui est fine et sur le côté qui a soufflé. Le seul petit inconvénient qu'il y a là, mais moi je trouve que c'est un avantage en tant que cuisinier, c'est qu'on ne peut pas mettre beaucoup d'ingrédients dessus, Laurent. Alors l'astuce...
Ça impose de faire simple.
Ça impose de faire simple, c'est faire... Moi j'ai fait juste une base donc, de tomates avec de la mozzarella. Je l'ai cuite comme ça et à la fin, je dépose dessus des ingrédients crus. Là, je me suis amusé à redéposer un peu de parmesan. Je me suis amusé avec
des tomates cerises.
Des tomates cerisettes. Et un peu de roquette.
Un peu de roquette qu'on met à la dernière minute.
Moi, je vois un autre inconvénient, c'est que j'ai pas la pizza devant moi, là.
Oui, c'est vrai.
Après, il y a une astuce, quand même. C'est que quand vous allez étaler votre pâte, vous allez prendre votre planche, une planche à découper, que vous allez légèrement fariner, et vous étalez votre pâte sur votre planche à découper, parce qu'une fois qu'elle va être bien étalée, assez fine, vous allez pouvoir la glisser très facilement.
Donc, il y a une petite mise en place comme ça.
Comme si c'était, en fin de compte,
oui, une pelle.
La pelle du pizzaiolo, vous le faites avec votre planche pour pouvoir la glisser.
Combien de temps de cuisson, ça?
Là, ça m'a demandé 18 minutes.
18 minutes de
18
cuisson.
Minutes.
Oui, c'est plus long que dans un four, hein, forcément.
C'est un peu plus long que dans un four parce que la puissance est un peu moindre.
Mais ça, c'est le genre d'objet qu'on peut détourner, comme on l'avait fait déjà ici avec le rice cooker ou l'appareil à raclette, par exemple. Quand on est étudiant, qu'on n'a pas beaucoup de matériel dans son studio, on peut avoir un appareil comme ça pour faire du vrai fait maison. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait le détourner? Alors, je sais que vous avez...
regardez, Laurent.
Il est en train de le déplier.
C'est assez étonnant.
Ça va, Camille Chamou? Ça vous plaît,
regardez,
le parfum?
Laurent,
j'adore.
C'est qu'on peut l'ouvrir, on le met complètement à l'horizontale et avec le couvercle du haut qui est rayé. On s'en sert comme une grillade.
Ah oui, pour, façon plan de chat.
Façon plan de chat, façon grillade. Pour quelqu'un, un jeune qui a un petit studio, qui n'a pas la chance d'avoir une petite gazinière, c'est vraiment un petit ustensile qui n'est pas onéreux. On peut faire des pizzas, on peut faire une petite grillade. Et j'ai essayé, à la place de la pizza, Laurent, j'ai fait des crêpes. Et ça marche aussi.
Ça marche aussi
parce que c'est anti-adhésif.
Ah, magnifique. Bon, on vous mettra les références sur europe1.fr, bien entendu. Et pendant la pause, on va couper des parts de pizza que nous allons servir.
Ah bah
vous pensez bien,
bien.
Wow.
À Camille Chamou.
Écoutez comme ça croustille.
Et une pizza pour Camille Chamou et une pizza pour nos auditeurs. Vous retrouverez donc les références sur Europe 1. Et on revient avec un plat du jour spécial pour vous, Camille. Un plat du jour made in Normandie, mais on vous en dit pas plus parce que c'est une petite surprise.
La crème du beurre?
Chic.
Non, mais du poisson. A tout de suite sur Europe 1 et bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire, ça sent bon.
C'est moins cher dans le marché couvert, allez,
3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30, le meilleur de la table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Depuis 11h, on retrouve les meilleurs coups de fourchette de nos invités et puis les conseils de nos spécialistes de l'alimentation. Alors soyez les bienvenus hein, si vous nous rejoignez. Nous avons récolté et cuisiné le poivron. Nous avons déplié la nappe avec des recettes à emporter en pique-nique. Le sandwich brioché avocat, truite fumée de la chef Amandine Chéniaud. L'omelette verte d'Armand Arnal. Les œufs durs ont de la compagnie, hein, c'est vrai, dans le panier de pique-nique. On continue, allez, de tailler la bavette avec la bonne vivante et comédienne Camille Chamou. Juste déconfinée, elle nous avait confié l'importance pour elle des plaisirs de la table. Alors on la retrouve tout de suite. En train de croquer dans une belle part de pizza. Ça vous plaît, Camille Chamou?
Ah, comme le dit ça Olivier. Fait du bien, je ne m'attendais pas à ça.
Une pizza signée Yves Candebordes. Oui, c'est une cousine de la Margarita. Elles
Yves Candebordes.
On a une pâte, tu vois. C'est étonnant.
La pâte est fantastique.
Oui, fantastique.
Elle est bien cuite.
Le croustillant.
Ouais. Non, je te dis, c'est très étonnant.
Vous avez mis de la semoule ou de la polenta en dessous de la pâte? Même
non,
pas,
non, non,
pas
non, même pas. Non.
C'est génial. Ah, qu'est-ce que c'est bon.
C'est vrai que la difficulté de la pizza. C'est la cuisson. Dans un four traditionnel, on n'y arrive pas, elle reste molle.
Exactement, ça marche bien ça. Bravo. Ah, c'est un retour en fanfare, Yves Candebord.
Oui, mais après, on a fait pizza flamencuche, pareil.
Oui,
on peut vraiment détourner.
On peut tout faire.
C'est une pâte à pain, après on met ce qu'on veut dessus.
Camille Chamou, vous nous l'avez dit, hein, vous aimez aller au restaurant. Oui. Alors, il paraît que vous aimez choisir sur la carte, et ça j'adore, ce dont les autres ne raffolent pas du tout. Hein.
Très vrai.
C'est vrai ça?
Très vrai. Par exemple, j'adore que ça croustille en même temps que je parle.
Oui, mais c'est bien. Bah, regardez, on va faire.
Mais comme quoi, la pâte est vraiment croustillante.
Oui, la pâte est croustillante. Mmh. Une belle garniture, je le redis, hein, avec des tomates cerises, de la roquette, de la mozzarella. Ce qui est important, Yves, c'est de choisir des ingrédients de bonne qualité. Hein.
Ça, Laurence, quoi qu'on fasse en cuisine, la base, là, c'est pas la peine de compliquer. Si on a la même matière première, on fait le plus simple possible. On s'écarte, on la laisse faire.
Qu'est-ce que vous aimez choisir que les autres ne choisissent pas?
Non, mais je dis ça parce que j'aime beaucoup les abats. J'aime les trucs bizarres, moi.
Mais c'est pas bizarre.
Je vais toujours aller chercher un truc où les gens sont là, bon, sérieusement, double tripou au quadruple grade.
Comme ça, vous êtes tranquille, ils piquent pas dans votre assiette.
Voilà, au moins, ça, c'est sûr.
Ça, vous en savez quelque chose, Olivier.
Non, mais j'aime bien les trucs inconnus. En fait, c'est marrant. J'ai repéré qu'il y avait quand même deux types de gens au resto. Il y a les personnes qui prennent tout le temps la même chose.
C'est vrai.
Et qui aiment explorer tout le temps le même plat. Mais mon mec, par exemple, il prend la salade César dans tous les endroits où il y a une salade César. Il adore la salade César et il aime voir toutes les explorations de la salade César. Moi, je prends toujours le truc inconnu ou le truc bizarre. Ou
vous êtes curieuse, aventurière. Ouais. Comme dans votre film, d'ailleurs, hein, Première Vacances, que vous avez coécrit, qui est fantastique, où il y a une scène. Il faut regarder ce film en VOD. C'est vraiment un super film, une très belle comédie qui se passe en Bulgarie. Et il y a une scène où vous êtes dans un petit boui-boui bulgare. Et vous mangez quoi? C'est des patates à l'huile?
Oui, bah, en fait, c'est une spécialité bulgare. Et c'est des patates qui trempent dans une espèce d'huile rouge avec des morceaux de viande. C'est comme un truc un peu bouilli, là, un peu. Mais moi, j'adore.
Alors, pour le plat du jour, on vous emmène en Normandie. C'est une région que vous aimez bien, Camille Chamou.
Oui, tout à fait.
Et nous allons appeler Monsieur Paul Lacheret, qui est chef à l'huître brûlée, une adresse que vous fréquentez.
J'adore ce restaurant, il est super bon.
À Honfleur.
Oui, à Honfleur.
Il est avec nous au téléphone parce que c'est un autodidacte et c'était quelqu'un qui a le sens d'une cuisine brute instinctive. Et on veut vous le présenter. Bonjour, Paul Lacheret.
Bonjour, Laurent. Bonjour, Camille.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Paul Lacheret. Je le disais, vous pratiquez une cuisine inventive et brute, beaucoup de poissons, beaucoup de viande. Je sais que chez vous, Camille Chamou aime beaucoup manger des couteaux, par exemple.
Tout à fait.
Ouais.
Juste récoltés sur les plages. Et vous aimez cuisiner les poissons de pêche durable. Alors, un exemple, tiens, de poissons de pêche durable pour notre plat du jour.
En ce moment, on est en plein dans le maquereau, hyper raisonnable en termes de prix. Alors, moi, je vais vous proposer de le faire. Vous allez l'avoir enfilé, votre maquereau, et vous allez le snacker assez fort, très rapidement, pour qu'il soit vraiment juste grillé du côté peau et tendre à l'intérieur.
Très peu de temps, ça. Hein. Et ensuite, racontez-nous la suite.
On pourrait très bien le faire avec des petits pois, par exemple. On est en pleine saison aussi, ça marche bien.
Bien.
Alors, vous les faites, les petits pois, vous les faites dans une chauffante, dans de l'eau bouillante, salée.
C'est ça, c'est le nom des cuisines. La casserole d'eau bouillante pour les cuisiniers, la chauffante.
Ouais, c'est ça. Vous allez juste les plonger dans l'eau bouillante. Et une fois qu'ils remontent, vous les laissez à peine 30 secondes. Et moi, je les aime comme ça, bien croquants. Vous pouvez les refroidir pour qu'ils restent bien croquants et bien verts.
Et un petit condiment, une petite sauce pour arrondir tout ça et les faire se rencontrer.
Framboise estragon avec soit du citron, soit... moi, je travaille avec quelqu'un qui travaille hyper bien, c'est le domaine Le Palmier, et qui fait un super vinaigre de pommes qui s'appelle La Paumée, pour un côté un peu plus sucré.
Ah, c'est bien ça.
Et donc une petite sauce vierge avec sauce soja, huile d'olive, citron au vinaigre, et échalote, framboise... Et estragon, avec pas mal de matière dedans, ça marche hyper bien.
Ah, c'est beau, c'est vrai que les framboises jouent un rôle, hein, effectivement, dans les vinaigrettes avec cette petite touche acidulée. Et puis la couleur, parce qu'on mange aussi avec les yeux. Eh bien, merci Paul Lacheret d'avoir été avec nous au téléphone pour ce plat du jour. Très économique, hein, Paul, c'est moins de 4 euros par personne si on le fait à la maison, ce plat. Hein. C'est vraiment quelque chose d'accessible.
Accessible, comme vous dites.
Eh bien, on viendra le manger chez vous à l'huître brûlée, 8 rue brûlée, donc à Honfleur. Merci Paul, et bonne reprise.
Merci à vous. Merci. Au revoir.
Au revoir, bonne reprise. Ça donne envie, hein, ce petit macro snacké. Voilà, un joli condiment.
C'est vrai, c'est encore un produit qui est en pleine saison. C'est là que je pense qu'il est le meilleur et c'est là qu'il est le moins cher. Donc, on revient toujours à la même chose, Laurent. Les produits de saison. Il n'y a pas de secret.
Et de saison, il y a la pizza aussi, Camille Chamou. On vous laisse en prendre une part.
Ouais, c'est totalement
bien entendu,
de saison. C'est de toutes les saisons, la pizza. C'est ça qui est bien.
Quatre saisons, d'ailleurs.
Et on revient dans un instant avec les questions de nos auditeurs posées au 3921. Et même Camille Chamou aura une question à nous poser. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 12h30. Ne bougez pas, hein, on revient juste après ça. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce samedi, la comédienne et humoriste Camille Chamou est avec nous. On a compris que vous aimiez bien manger, que vous aimiez cuisiner, Camille Chamou. Est-ce que vous avez une question à nous poser, tiens, concernant une recette ou un truc, une astuce que vous aimez reproduire à la maison?
Alors moi j'ai une passion pour l'œuf. Mon ingrédient préféré dans la vie c'est l'œuf. J'adore ça sous toutes ses formes et j'adore les œufs qu'on trouve dans les restaurants japonais qui sont fumés. Enfin vous voyez qu'ils
marbrés
sont...
un peu.
Ouais voilà. Et ça je sais pas comment on fait. J'ai jamais demandé.
Je crois pas que c'est fumé. Je pense que c'est mariné.
Mariné, c'est une marinade effectivement.
Ouais, je suis pas spécialiste ça. Mais je suis pratiquement sûr que c'est mariné.
C'est des œufs mollets en tout cas qui sont cuits 6 minutes dans de l'eau bouillante.
Ah, c'est 6 minutes. Ouais. Ah, ça, je ne savais pas que c'était 6 minutes.
6 minutes l'œuf mollet. Et ensuite, on va les mettre dans une marinade avec pas mal d'ingrédients. Il y a un ingrédient qui s'appelle le tsuyu, qui est qu'une sauce utilisée au Japon, notamment avec les nouilles soba, par exemple. On va mettre aussi du saké, du sucre, du gingembre. Il y a plein de choses. Et on fait mariner les œufs une fois qu'ils ont été calés dans cette marinade, en fait.
Hein. On parlait de fumée. Alors, ça va, c'est quelque chose de totalement différent. Mais moi, j'ai une petite astuce. Je me suis amusé, confinement oblige et barbecue oblige. Je me suis fait un barbecue. À la fin de mon barbecue, je l'ai fermé. Je me suis mis des œufs dans la boîte, ouverte, dans le barbecue. Et en les laissant jusqu'à que que la température redescende, je me suis fumé les œufs. Je les ai fait à la coque le lendemain et j'avais un œuf à la coque fumé.
Mais arrête,
c'est un scoop. Yves Condebord fume les œufs.
C'est génial.
L'œuf est, tu sais, quand on laisse
un œuf, il est très poreux, la coque est très poreuse.
Et donc ça a pris la fumée et je les ai fait le lendemain matin à la coque et j'avais un œuf. Alors c'est vraiment pas très fumé. En plus, je suis pas trop fumé. Là, c'était très subtil et très agréable. Donc, on peut faire un œuf fumé comme ça.
Et pour votre recette d'œufs marinés, Camille Chamou, il faut simplement les laisser 1 à 2 jours dans le réfrigérateur, dans cette marinade, pour qu'ils s'imprennent bien, mais sans la coquille. Hein. Donc, effectivement, des œufs mollets cuits 6 minutes.
Génial.
Voilà. Donc, vous venez nous voir la prochaine fois avec.
Mais bien sûr, je vous dirai comment c'était.
De fumé japonais. Une question maintenant au 3921, amis auditeurs.
Bonjour Laurent, je m'appelle Jérémy, j'habite à Ligny-en-Barrois, dans la Meuse. Et avec mes parents, nous avons cueilli le week-end dernier des asperges des bois. J'aimerais savoir comment vous les cuisinez et qu'est-ce que vous conseillerez comme accompagnement. Merci et bonne journée.
Les asperges des bois, alors on a un expert ici, c'est Olivier Pouls, à ne pas confondre avec l'asperge sauvage.
Non, c'est pas la même chose. L'asperge des bois, c'est une toute petite tige, ça ressemble en fait à un épi de blé qui ne serait pas mûr, c'est vert. Ouais. C'est la fin de la saison là, parce qu'elles sont en train de commencer à fleurir. Et c'est vrai qu'il y en a partout en France. Moi, en Bourgogne, j'en avais, il n'y avait qu'à se pencher pour ramasser. J'en ai ramassé beaucoup, donc j'en ai cuisiné beaucoup. Le plus simple, c'est encore on garde les 30-40 derniers centimètres avec la tige évidemment et le petit épi. Je les fais revenir dans une matière grasse. Un petit peu d'huile d'olive, par exemple.
Pas de beurre.
Ou du beurre, pour faire plaisir à Camille. Hein, mais sinon, de l'huile d'olive, ça va très bien. Je rajoute un tout petit fond de jus de volaille, par exemple. Un peu de parmesan. On peut râper, par exemple, un tout petit peu de zeste de citron. Et hop,
cuisson minute.
On a qu'à les déguster comme ça. Il faut que ça reste un petit peu croquant. Il ne faut pas les cuire à grande eau. Moi, je ne suis pas un fan de la cuisson des légumes à grande eau.
Vous avez raison, Olivier. Il ne faut surtout pas les cuire à l'eau.
Simplement comme ça.
Ça va les laver. Et moi, je pense que l'asperge, c'est œuf. Voilà. Si vous me demandez des asperges, je passe œuf.
Ça va plaire à Camille,
ça. Moi, je suis contente.
Mais faire un œuf au plat. Faites un œuf au plat de façon normale. Et quand il est pratiquement cuit, vous allez poser les asperges en morceaux posés dessus. Mmh. Juste les laisser tiédir. On va garder tout le côté végétal. Mmh. Voilà. Juste les tiédir. Œuf, asperges, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est très, très simple. Et je dirais pour finir, une petite pointe de vinaigre. Deux petites.
L'acidité pour équilibrer.
Voilà, on a toute l'onctuosité, la suavité de l'œuf. Le végétal de l'asperge et l'acide du vinaigre.
Eh bien, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Ne bougez pas, on vous en parle dans un instant avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Il nous propose de faire de bonnes affaires côté vin ce samedi. Et Camille Chamou, vous restez encore un peu avec nous parce qu'on a un beau questionnaire pour vous, le questionnaire des bons vivants. A tout de suite. Dernière partie de notre émission avec la bonne vivante Camille Chamou. On se prépare pour les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Camille, vous aimez monter seule sur scène. Vous allez le faire d'ailleurs en septembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin. En cuisine, c'est pareil. Vous aimez être toute seule, vous aimez être tranquille.
Le contraire.
Ah.
L'intérêt de la cuisine, c'est la convivialité, mais depuis la préparation jusqu'à manger.
Vous mettez tout le monde à contribution.
Ça se partage, vous avez raison.
Ah, je trouve que c'est merveilleux.
Moi,
en fait, c'est beaucoup plus sympa. Et puis après, ça m'est arrivé de faire à manger toute seule et j'aime la façon dont le cerveau vaque quand on fait à manger tout seul. C'est un truc particulier, je trouve. C'est vraiment il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau quand on est en train de faire à manger et qui est assez chouette.
Je crois que quand on cuisine, on vit l'instant.
Oui.
On est présent, on est là.
Complètement.
On est tout simplement juste là.
Ouais, complètement.
C'est ce qui vous arrive.
C'est un très bon antidépresseur.
Bien sûr.
De faire à manger, je veux dire, pas de manger, parce qu'on parle souvent de la nourriture, mais faire à manger.
Mais parce que je le dis souvent, c'est valorisant, ça donne confiance en soi, on fait quelque chose de ses mains, on prend du plaisir et on en donne aux autres. C'est ce que vous avez fait avec votre fameux poulet tagine. Il est comment votre poulet tagine?
Non mais écoutez, c'était vraiment genre, j'ai pris, en fait on faisait des plats tour à tour parce que j'étais confinée avec un grand nombre de gens, on était 10 et du coup chacun faisait à manger pour tout le monde une fois tous les, bon voilà, on a fait comme en kibbutz quoi, en kolkhoz quoi. Et bon, moi mon jour arrivait, j'étais là, oh là là, je suis nulle, je sais pas quoi faire, les gens avaient fait des prouesses, des plats complètement fous et tout. Et puis, je me dis, je vais aller acheter un poulet fermier parce qu'on était à côté d'une ferme. Et puis, je vois qu'il y a des citrons confits dans le frigo. Je me dis, je vais regarder. Et en fait, je tombe sur une recette de poulet au citron confit, Mais c'est génial ce citron confit en fait. Parce que ça fait un effet de malade alors que c'est juste un poulet qui mijote avec du citron confit et quelques autres trucs. Mais
une note
vraiment...
orientale tout de suite.
Oui. Mais oui, mais c'est fou, ça marche, c'est incroyable.
Ah, ça donne de la profondeur et ça interpelle parce que c'est vraiment un goût qui marche.
C'est un goût très fort, très particulier. Ouais. Donc en fait, ça donne l'impression qu'on est un super bon cuisinier parce que c'est un goût pas banal. Et non, voilà, c'était ma grosse spécialité. Je l'ai servi juste avec des patates en plus. Alors vraiment,
c'est parfait. Mais c'est
un
très
truc
bien.
Tout
parfait.
Simple, mais ça a cartonné.
Et Camille Chamou, côté vin, qu'est-ce que ça donne?
Ah ben moi, j'adore le Bourgogne.
Oh, c'est goût de luxe.
Ouais, c'est un problème. Non, je suis plus vin rouge que vin blanc. Enfin, dans les vins blancs, j'aime les vins vraiment très, très ronds. Quoi. J'aime pas les vins acides. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est alors,
on va parler de bonnes affaires avec Olivier, parce qu'effectivement, vous allez nous parler du millésime 2019 à Bordeaux. Mm-hmm. Et vous avez pu le déguster, alors pour le coup, évidemment, plus tard que d'habitude, hein, parce que la crise est passée par là.
Ben oui, vous savez, il y a une tradition à Bordeaux, c'est la mise en marché des vins quelques mois après la vendange, qu'on appelle la campagne primeur, qui a pris du retard, évidemment. Normalement, on est censé aller à Bordeaux déguster les vins du côté du mois d'avril. On n'a pas pu le faire. Donc là, séance de rattrapage, j'ai pu me mettre à jour et ça y est, je commence à avoir une bonne vision de ce millésime 2019. Ah. Et d'ailleurs, en primeur, je vous la livre, cette vision.
C'est une bonne année, pas une mauvaise année?
Alors, on ne va pas tourner autour du pot. C'est une bonne année, c'est encore une bonne année.
Mais vous dites ça tout le temps.
Mais oui, alors c'est vrai, c'est la spécialité de Bordeaux. Hein. Chaque année, on prétend que c'est l'année du siècle ou du millénaire. Un bon vigneron vous dit d'ailleurs que le millésime, c'est celui qui reste à vendre. Mais cela dit, il faut être objectif. Depuis une quinzaine d'années, en fait, le réchauffement climatique, l'amélioration des techniques, les connaissances, etc., font qu'on ne connaît pratiquement plus de petits millésimes. Alors, il y a eu 2013, que je vais mettre à part, qui est un millésime vraiment compliqué. Mais en dehors de ça, c'est vrai que 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sont de très bonnes années. On peut en acheter.
Qu'est-ce qui explique cela? C'est le terroir, on le connaît, il est bon, mais c'est le soleil, c'est le climat?
C'est la nature, le réchauffement climatique, effectivement. C'est les connaissances œnologiques aussi, et c'est les moyens dont disposent finalement les vignerons pour trier avec des outils aujourd'hui très sophistiqués, des chais, des cuviers qui sont extrêmement performants, et tout ça augmente la qualité des vins. On n'a jamais produit aussi bon qu'aujourd'hui, que ce soit des petits vins ou des grands vins.
Vous dites qu'ils sont bons, ça veut dire qu'ils sont chers aussi?
Alors, bonne nouvelle cette année, c'est que la tendance est à la baisse. Le contexte économique est très difficile pour les vignerons.
Ben oui.
Les premières indications qu'on a seraient sur des baisses d'environ 30%. Et ça concerne, oui, 30% notamment pour certains crus classés, c'est énorme. Mais il faut s'attendre à ce que dans l'entrée de gamme, la baisse soit un petit peu moins forte parce que ce sont des crus qui sont moins spéculatifs. Mais je rappelle qu'à Bordeaux, des Fleurs au Gossens, des Pins Beau Soleil, des Tours de Bie, des Roland de Bie, des Courteillac, ce sont des vins qui se vendent à moins de 10 euros ou autour des 10 euros et qui sont des vins extraordinaires qui n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. Donc, allons-y, le millésime 2019, on peut y aller.
Tous au Bordeaux, et il y a de bonnes affaires, contrairement effectivement à ce qu'on pense toujours l'inconscient collectif. Les Bordeaux sont chers, les Bourgognes aussi, n'en parlons pas.
Il y a une centaine de marques qui est absolument intouchable pour la grande majorité d'entre nous, mais à côté de ça, il y en a plein. Puis je spécifie quand même que le millésime 2019, il ne sera sur le marché qu'après la fin de l'élevage et la mise en bouteille dans un an.
Hein. Oui, c'est pas pour tout de suite. Eh bien, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants, cher Camille Chamou.
Oh.
Attention, ça chauffe. On fait chauffer le barbecue.
Ah ouais.
Quel est le goût de votre enfance, Camille?
La tarte avec la pâte feuilletée et que faisait ma grand-mère elle-même, en fait, parce que je la vois encore faire la pâte feuilletée, c'était vraiment c'est impressionnant.
Ah, les pliages et les tours.
Ah, les pliages, c'est du boulot, les tours. Mais c'est hyper long. Et en fait, elle le faisait avec une dextérité folle et j'adorais, je regardais toujours parce que tous les dimanches, elle faisait une pâte feuilletée et on était toutes les deux très matinales, on était les seules à se lever dans cette maison.
Mais elle mettait quoi dessus? Rien ou
Aux pommes. C'était vraiment une tarte feuilletée, une tarte aux pommes légèrement caramélisée sur le dessus, mais juste parce qu'elle mettait
la cassonade. La belle tarte fine aux pommes, c'est délicieux.
Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais j'ai un souvenir, j'en ai jamais remangé comme celle de ma grand-mère. Bon, vous allez dire, c'est un peu la Madeleine de Proust, mais la très, 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 très bonne tarte feuilletée, je trouve que c'est fou.
Quel est le premier plat que vous avez cuisiné?
Non, mais moi, c'est une cata. Moi, je suis vraiment... Un jour, j'ai pris des carrés de poisson pané. Et je me suis dit, tiens, je vais faire... Comme j'ai toujours un truc avec le citron, parce que j'ai dit, tiens, je vais faire un gratin de poisson au citron. Et en fait, j'avais 18 ans, j'ai invité des amis et j'ai mis des poissons panés. Hein. J'ai écrasé des pommes de terre, mais je ne comprends pas ce qu'il m'a pris. Et j'ai mis des morceaux de citron dedans, mais des morceaux de citron, en fait.
Avec la peau.
C'était imbouffable. C'est-à-dire que j'ai encore les mêmes amis aujourd'hui, mais c'est ça chers. Reste un... non mais ça reste un
oui, mais vous avez...
une anecdote phare.
Vous avez au moins amis. Voulu revisiter le poisson pané, ça partait d'une belle intention.
C'est surtout des vrais amis ceux-là.
Ouais, voilà.
Et le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer?
La cervelle. En fait, depuis que je suis petite, moi j'adore les abats. Mais il y en a un que j'ai jamais goûté, c'est la cervelle. Alors je sais pas d'ailleurs parce que ça a été interdit ou je sais pas ce qu'il y a eu à un moment donné, on pouvait plus acheter de cervelle.
La crise de la vache folle.
Mais maintenant on peut à nouveau. Sûr, voilà. Ouais, peut. Et donc en fait, il y a eu une période où j'ai dit ah j'aimerais vraiment goûter la cervelle parce que je me souviens que mon grand-père mangeait de la cervelle. Enfin, il m'avait parlé de ce plat qui était un plat pour moi interdit, donc fascinant. Mais je n'en ai jamais mangé.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Camille Chamou?
Vous.
Avec plaisir, on vient.
Je vais être très très familiale, hein. Mais j'adore découvrir avec mes enfants et mon mec. J'aime beaucoup qu'on soit au même titre, enfin qu'on considère pas qu'il faut faire une nourriture pour enfants aux enfants. Donc je vais dire que en fait le truc chouette, c'est de partager des plats superbes avec ses enfants. D'ailleurs, mes enfants qui sont tout petits, je les ai emmenés à Clamato, le resto dont on parlait tout à l'heure. J'aime bien faire découvrir des choses à mes enfants. D'ailleurs, depuis qu'ils sont nés, ils mangent de tout.
Et c'est comme ça que naît la transmission. Hein.
Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'activité préférée des enfants, c'est quand même faire la cuisine avec leurs parents. C'est fou. Moi, pendant le confinement, j'ai testé plein d'activités. Et l'activité, mais qui marque les esprits et qui fait qu'il y a une solidarité enfant-parent, qu'on attend la même chose en même temps et qu'on est au même niveau, c'est la cuisine.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Camille Chamou?
À table. Parce que ma petite fille, elle a 19 mois et pendant tout le confinement, moi je criais, comme je vous disais, on était très nombreux et donc je criais « À table !» en me rendant pas compte que j'avais une voix de crécelle et que c'était insupportable. Et un jour, elle arrive, alors qu'elle parle très très mal, hein, elle dit en gros « Maman, papa hein, » et quelques trucs qu'on comprend pas. Et un jour, elle arrive et elle fait « À table !»
Oui, exactement, c'est ça, à table et profiter des vacances hein, pour cuisiner avec les enfants. La transmission, ça commence maintenant, pendant les vacances, on a du temps. Et pourquoi pas, tiens, cuisiner les poivrons récoltés au début de l'émission avec une belle farce d'échine de porc, relevée avec du piment d'Espelette, du paprika, allez, un peu de romarin et puis des œufs et du riz pour la consistance. 35 minutes à 170 degrés, eh bien vous retrouverez cette recette et puis toutes celles du dossier pique-nique sur europe1.fr les amis. Voilà, c'est l'été, donc vraiment, prenez le temps d'aller au marché, de rendre visite à vos producteurs locaux et puis surtout, cuisinez. Voilà, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres meilleurs moments autour de la table des bons vivants. Bon week-end sur Europe 1.